Alors nous avons la joie aujourd'hui d'avoir un autre prédicateur que d'habitude, donc Roger Ackermann, et nous avons la journée d'appel. Donc je rappelle que le culte sera suivi d'un repas, auquel nous sommes tous invités cordialement, et surtout avant le repas, il y a une assemblée générale, une petite assemblée générale de notre association culturelle, le bras social de l'Église, donc appel. Voilà, et donc je laisse la parole au président d'appel, Roger Ackermann.
Bien, bonjour à chacun, chacune. Je vous propose une lecture qui sera un petit peu une introduction à notre Assemblée Générale tout à l'heure, mais une lecture dans l'Évangile de Marc. On a commencé l'Évangile de Marc avec José, mais on va un petit peu plus loin là, au chapitre 6, à partir du verset 30. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit : « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied, on les devança au lieu où il se rendait. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ? » Et il leur dit : « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent : « 5 pains et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole et nous te prions d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions saisir ce que tu veux nous dire par cette parole. Merci de ce que tu nous donnes ainsi un enseignement et que nous puissions recevoir de toi tes directives et les mettre en pratique dans notre vie. Ouvre nos yeux pour que nous, comme disait le psalmiste, pour que nous puissions voir les merveilles qui sont dans ta parole. Au nom de Jésus, amen. Nous allons avoir tout à l'heure l'Assemblée Générale de notre association Appel. En France, c'est une obligation légale de séparer, au moins pour les comptes, ce qui concerne le culte et ce qui concerne l'action sociale et culturelle. Au cours de l'histoire, la loi s'est adaptée à la réalité de la vie des églises et des œuvres sociales. Alors c'est une contrainte, cette séparation des comptes, mais en même temps une garantie. Car aussi bien pour l'Église que pour l'action sociale, tout est parfaitement transparent et peut être contrôlé. Mais cette séparation n'a pas toujours été. Et même si l'action sociale est le plus souvent aujourd'hui gérée par l'État ou sous son contrôle, le souci du pauvre, de celui qui souffre, c'est une valeur fondamentale de la parole de Dieu. Dès le début de la Bible, en particulier dans toutes les lois données à Moïse, on trouve de nombreuses références aux pauvres, aux veuves, aux orphelins. Et dans l'histoire, de nombreuses œuvres, même celles qui depuis sont devenues laïques, sont nées du témoignage de chrétiens qui ne se sont pas contentés de rester dans leur église. Quand j'étais à l'école primaire, ça fait un petit moment déjà, mais on apprenait dans les fondements de l'action sociale le personnage de Saint Vincent de Paul, qui avait fondé des hospices, hein, des asiles. Les premiers hôpitaux ont été fondés par des chrétiens. La Croix-Rouge a été fondée par un chrétien. On peut citer aussi les asiles John Bost dans le sud de la France pour les handicapés. On connaît aussi le rôle qu'ont pu jouer plus récemment des chrétiens comme Martin Luther King, Nelson Mandela ou Desmond Tutu, qui était le responsable religieux, pasteur en Afrique du Sud. Et ce récit que nous venons de lire de la multiplication des pains pour des milliers de personnes nous invite à la réflexion sur cette dimension sociale de l'Évangile. Et la première remarque que nous pouvons faire, c'est le souci de Jésus pour le bien-être, pour la santé de ses disciples. Alors que les disciples viennent rendre compte de leur mission, au début de l'évangile du chapitre de l'évangile de Marc, chapitre 6, on voit Jésus envoyer ses disciples en mission avec un certain nombre de directives. Et les disciples reviennent et veulent raconter à Jésus tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui s'est passé. Mais Jésus se soucie de leur force physique. Ils avaient avant tout besoin de se reposer. Ils étaient tellement occupés qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Nous ne sommes pas à l'abri de ce danger. En faire toujours plus. Et tellement que notre santé en est menacée, sans même que nous nous en rendions compte. Faire toujours plus, au détriment du repos indispensable de notre corps, physiquement et spirituellement. Si c'est dans l'Église ou pour l'Église, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'activisme chrétien, une espèce de fuite en avant pour se déculpabiliser de notre paresse ou éviter de prendre le temps de se placer réellement devant le Seigneur. Mais cela peut être aussi vrai dans notre travail professionnel ou même dans nos loisirs. Le repos, le ressourcement spirituel sont indispensables. Et Jésus invite ses disciples au repos, non pas pour aller faire une sieste bien méritée, mais pour se mettre à l'écart avec lui, pour cultiver la communion avec lui, à l'abri de la foule. Est-ce que nous prenons toujours ce temps ? Alors la deuxième remarque qu'on peut faire sur ce passage, c'est que si la mission des disciples était spirituelle, puisqu'ils devaient quand même prêcher la repentance, hein, on a le passage parallèle dans Matthieu, il nous dit qu'il devait aller annoncer la bonne parole. Hein, mais leur mission n'était pas seulement spirituelle. Ils le firent, bien sûr. Mais en même temps, ils avaient pouvoir sur les esprits impurs. Le texte nous précise qu'ils chassèrent beaucoup de démons. Ils ne se sont pas contentés d'annoncer la bonne nouvelle. Le texte précise aussi qu'ils oignirent d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ils s'occupaient des malades, ils s'occupaient de la santé des gens. Ils ne se contentaient pas d'annoncer l'évangile. Est-ce que nous n'avons pas, nous, tendance à réduire le message de l'évangile à sa dimension spirituelle ? Comme si l'âme seule avait du prix aux yeux de Dieu. Le message de l'évangile s'adresse à des personnes tout entières, corps, âme et esprit. Il y a un vieux proverbe qui dit « Ventre affamé n'a pas d'oreille ». Vous connaissez certainement ce proverbe. Hein ? Une personne qui a faim ou qui souffre n'est pas disponible pour entendre ce qu'on lui dit. Elle n'est pas disponible pour entendre l'évangile. Et il faut d'abord soulager sa souffrance. C'est sa souffrance qui, pour elle, est prioritaire et cache tout le reste. Et c'est tellement vrai que la devise de l'armée du salut est, dans l'ordre, les trois S, dans l'ordre, soupe, savon, salut. Nos amis salutistes annoncent pourtant la parole de Dieu, mais ils commencent par l'action sociale. Ils veulent d'abord soulager, et après, ils annoncent l'évangile. Il faut d'abord soulager la souffrance. Nous sommes invités à mettre en pratique autour de nous l'amour de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors c'est une phrase que Jésus a rappelée à quelqu'un qui était venu lui demander conseil. Mais nous trouvons 8 fois dans le Nouveau Testament cette phrase. Et à chaque fois, le contexte montre que le prochain n'est pas seulement celui qui nous est sympathique et que nous aurions choisi comme amis. L'action sociale fait partie du plan de Dieu et du plan de Jésus dès le début de son ministère sur la terre, avant même la croix. Les premiers mots que Jésus a prononcés publiquement, on a ça dans l'évangile de Luc au chapitre 4, il rappelle une parole qui est dans le livre d'Ésaïe, mais il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Jésus ne dit pas à ce moment-là qu'il est venu pour mourir sur la croix. Au début de son ministère, il a ce souci de répondre aux besoins des gens sur le plan social, aux besoins qu'éprouvent tous les gens de son temps. Et aujourd'hui, en tant que disciples, nous sommes impliqués dans ce même projet et c'est à nous de le continuer. Alors maintenant, voyons plus en détail cette multiplication des pains. Bon, l'invitation aux disciples de se mettre à l'écart de la foule avec Jésus n'est pas une réussite. Venez à l'écart, ils partent pour se mettre à l'écart, pour s'isoler. Manque de chance, la foule sait où ils sont et la foule les suit. Et tout le monde même les précède. Les gens arrivent avant eux, là où ils vont. Et c'est parfois une réalité. Il y a tant de souffrances autour de nous qu'à moins de fermer volontairement les yeux, elle est constamment présente devant nous. Mais parfois, nous pouvons fermer les yeux ou nous détourner. Quand nous voyons un clochard dans la rue, par exemple. Jésus, lui, ne se détourne pas. Même si l'objectif, c'était un moment de communion avec les disciples, quand il voit cette foule, eh bien, Jésus fut ému de compassion. C'est une expression que l'on retrouve plusieurs fois dans les évangiles, quand Jésus a devant lui une personne qui souffre. Et ici, il compare la foule à des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se met à les enseigner. Il était parti avec les disciples pour se mettre à l'écart, pour se reposer avec lui, et là, il enseigne la foule. En fait, il y a là une priorité. Où sont nos priorités? Le souci de notre foi, de notre communion avec le Seigneur, nous fait-il fermer les yeux sur la souffrance du monde qui nous entoure et qui a besoin à la fois de voir concrètement manifester l'amour de Dieu et d'entendre annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile? Je vous renvoie, par exemple, à la parabole du bon samaritain, où des gens passent sans s'occuper de la personne qui a été blessée, qui est tombée aux mains des brigands. En tout cas, Jésus, pour lui, la priorité, c'est de répondre aux besoins de cette foule qui a besoin d'être enseignée. Alors maintenant, quel est le rôle des disciples? Eh bien, les disciples sont bien conscients des besoins de la foule, des besoins physiques de la foule. Et ils vont même jusqu'à interrompre Jésus. Jésus est en train d'enseigner, les disciples lui disent « Écoute, arrête de parler, mais il est tard, hein, l'heure est avancée, faut renvoie les gens pour qu'ils aillent acheter de la nourriture. Renvoie la foule pour qu'ils aillent acheter à manger. » Comme les disciples, n'avons-nous pas tendance à laisser l'intendance, la gestion des matériels aux autres? Après tout, il y a d'autres œuvres qui font du social. On en connaît hein, dans notre réseau de relations. Puis les gens qui travaillent dans ces œuvres sont des spécialistes. Ils connaissent bien le problème. Nous, on ne connaît pas bien. On ne sait pas faire aussi bien. Puis notre priorité, c'est l'annonce de l'Évangile. Pourtant, c'est à ses disciples, comme à nous, que Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Et comme nous, les disciples trouvent facilement des excuses. Cela coûterait trop cher. 200 deniers. À l'époque, un denier, c'était à peu près le salaire d'une journée de travail d'un ouvrier. Donc 200 deniers, ça fait 200 jours de travail, ça correspond à peu près à plus de 6 mois de travail, 6 mois de salaire, 7 mois de salaire. Donc il n'y a pas assez pour... C'est impossible. Or, qu'est-ce qu'il y avait? Présent sur le lieu? On recherche, on recense un peu ce qu'il y a. 5 pains et 2 poissons. Ce qui est important, ce n'est pas la valeur exacte de ce qui est nécessaire, mais ce que nous mettons à la disposition du Seigneur et que lui va utiliser. Et l'évangile de Jean nous le précise, c'est un jeune garçon qui a amené ses 5 pains et ses 2 poissons. Bon, il ne savait pas à quoi ça servirait, mais avec ça, Jésus a nourri une foule entière. Avec le peu que nous apportons au Seigneur, mais surtout notre disponibilité, hein, le Seigneur peut faire beaucoup et bénir un grand nombre de personnes. Alors quand je lis ce récit, je suis frappé aussi des détails que nous donne l'auteur, qui est donc Marc. On pense que Marc n'était pas le témoin oculaire, il n'a pas vécu lui-même ça. Hein, on pense que c'est plutôt l'apôtre Pierre qui lui a rapporté, qui a raconté tout ce qu'il a vécu. Et, en tout cas, Marc consigne ça par écrit, hein, et il nous donne des détails, donc que Pierre a dû lui transmettre. Hein. Et il y a des détails sur l'organisation et la distribution. Jésus a donné l'ordre de faire asseoir les gens sur l'herbe verte par groupe. Et on nous dit qu'ils se mettent en rangée de 50 et de 100. Il n'y a pas de panique, pas d'affolement. Et dans une région au climat plutôt chaud, on pourrait dire, ne restez pas debout sur le chemin sec et poussiéreux. Prenez le temps de vous asseoir confortablement sur l'herbe. Soyez patients, ça va venir. Vous avez certainement vu, comme moi, des reportages à la télévision et des scènes de violence qui se produisent lorsqu'un camion de nourriture arrive dans un pays sinistré en proie à la famine. Ce n'est pas le cas ici. Il y avait pourtant une grande foule, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais dans cette organisation, on voit que Dieu est un Dieu d'ordre. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Un minimum d'organisation dans tout ce que nous faisons, de tout ce que nous pouvons faire, dans l'Église ou même ailleurs pour le Seigneur, depuis le ménage jusqu'à l'école du dimanche, ou même l'organisation d'un repas fraternel. Hein, l'organisation fait partie de notre témoignage. En outre, une bonne organisation facilite le travail et fait faire des économies de temps, d'énergie et même de fourniture. Comme le rappelle le bulletin de l'Église, que vous avez tous lu attentivement, j'en suis convaincu, il y a cette citation du verset de 1 Corinthiens 10, 31. « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc c'est valable aussi bien dans notre façon de faire les choses les plus ordinaires, comme manger et boire, que pour tout le reste. Avoir de l'organisation dans ce que nous faisons fait partie de ce tout autre chose. D'ailleurs, au niveau d'appel, la gestion rigoureuse de l'association, le respect des règles pour présenter les comptes, pour fournir à la mairie dans les délais les documents demandés, font que nous sommes reconnus et nous recevons des avantages pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont la publicité faite gratuitement sur les panneaux municipaux. Et au nom d'appel, quand nous organisons quelque chose, eh bien, c'est sur les panneaux électroniques et nos affiches sont affichées. On reçoit une subvention. Beaucoup d'églises ne reçoivent pas de subvention de leur mairie. Mais par l'intermédiaire d'appels, parce que les églises peuvent pas, les municipalités ne peuvent pas financer des églises, mais elles peuvent financer des associations comme appel. Donc cette organisation porte du fruit. Et alors Jésus a donné ses directives aux disciples. Faites-les asseoir par groupe, les disciples obéissent. C'est les disciples qui font le travail, ce n'est pas Jésus. Et c'est bien sûr un exemple pour nous. Dieu veut nous utiliser pour nourrir les gens qui nous entourent de sa parole, pour être auprès d'eux des témoins de l'amour de Dieu. Mais c'est à nous de le faire. Et comme il avait envoyé ses disciples en mission aussi, eh bien, Jésus nous envoie en mission, c'est notre responsabilité. Alors bien sûr, nous pouvons prier, Seigneur, fais que, on sait bien le faire. Mais entendons-nous le Seigneur qui nous dit, vas-y, va au travail, fais-le toi. Alors pour conclure, je dirais, comme les disciples qui auraient voulu rester seuls avec le Seigneur, ne nous contentons pas de jouir égoïstement du salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Louons le Seigneur pour son amour, mais ne nous réfugions pas dans la louange et dans l'adoration pour ne plus rien faire d'autre qui serve à la gloire de Dieu, là où il nous a placés, auprès des personnes qu'il nous fait rencontrer. Que notre spiritualité ne nous serve pas de dispense de service auprès de notre prochain, d'excuses pour ne pas aider ceux qui pourraient avoir besoin de nous. L'apôtre Jean nous dit, si quelqu'un, voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ça pourrait être un slogan pour chacun de nous. Considérons tous ceux qui souffrent autour de nous, afin de ne pas avoir honte lorsque Dieu nous demandera des comptes. Relisons ces paroles de Jésus au moment du jugement dernier. Ils répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Alors en tant que chrétien, sauvé par le sacrifice du Christ sur la croix et la foi en lui, nous n'avons pas à craindre ce jugement dernier, mais nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Donc, cette parole du jugement dernier, vous pouvez aussi la prendre pour nous. Pratiquons sans nous lasser les œuvres d'amour et de témoignage que Dieu nous confie. Dans l'Épître aux Galates, nous lisons « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Nous sommes invités à persévérer. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout les frères dans la foi, envers les frères dans la foi. Mais on ne peut pas se désintéresser de ceux qui souffrent et que nous côtoyons. Et si nous faisons cela, eh bien notre foi et notre service pratique seront en parfaite harmonie pour la gloire de Dieu. Amen.